offensive sonore, un vendredi sur deux sur Radio Libertaire.
Et moi, j'aime l'entreprise.
On pourrait faire buter le patron par un professionnel.
J'aime l'entreprise.
Là, je mettrais plus les pieds dans cette tôle, là.
Faut que tu rationalises.
Pour vous rentrer ici, vous allez voir quel bordel que c'est. On est dégueulasse jusqu'à là, on est toutes noires, hein.
Une entreprise tourne avec X employés, pas X plus 1.
Mais quel patron?
C'est la solution la plus rentable. Donc, la seule.
Sans publicité, il n'y aurait plus liberté d'idée.
Il y a un troussage de domestiques, c'était pas bien.
Mot d'ordre central brisé, je cite, les chaînes de l'esclavage qui depuis toujours réduisent à une condition inférieure la femme.
Offensive sonore, un vendredi sur deux sur Radio Libertaire.
Donc vous êtes bien sur Radio Libertaire 89.4 FM, c'est l'émission Offensive qui commence jusqu'à 22h30 et c'est la dernière, puisque en fait l'émission va s'arrêter après celle-là, et on en a profité pour faire une espèce de émission nostalgie avec Rimso.
Oh, c'est
micro.
Triste. Bonjour. C'est Offensive Sonore, je crois. T'as oublié le sonore, hein.
Ah, j'ai oublié le sonore. Daman à la technique. Comment
bonsoir,
t'as pas entendu
Daman.
Bonsoir. Donc voilà, qui fait la qualité en fait du son, c'est chez Daman. Et donc donc l'émission Offensive Sonore, pour resituer, donc c'était tous les vendredis de 21h à 22h30, et ça fait à peu près 20 ans hein, que l'émission a eu lieu, et ça remonte encore à plus loin. C'est pour ça aussi que j'ai invité Rimso, parce que toi t'étais aussi au tout début. C'est-à-dire que donc Offensive Sonore, au départ, c'est lié à une organisation libertaire qui s'appelait Offensive Libertaire et Sociale. Et avant, la plupart des membres, surtout sur Paris, étaient à Nopasaran, au Scalp Reflex, puisqu'en fait le Scalp Reflex c'était la section carrément anti-Le Pen, qui était en fait des groupes libertaires. Donc c'est pas forcément évident quand on a vu les titres, et on pensait vraiment antifascisme, mais c'était plus libertaire au sens large. Et la section carrément anti-Le Pen de Paris était liée à un réseau qui s'appelait le réseau Nopasaran, pour mettre en contexte. Donc ça c'est plus les années 2000, enfin là je parle des années 2000. Je sais pas quand est-ce que tu avais commencé à militer
Moi, avec le Scalp Reflex Nopasaran, Scalp Reflex Paris, c'était dans les années 98. Voilà. Et effectivement, on était sur Radio Libertaire, une émission avec Nali, avec Fuel, avec Cédric, avec d'autres. Et on avait l'émission le jeudi, je crois, en fin d'après-midi. Et après, on avait récupéré un créneau assez intéressant du vendredi, celui actuellement qui passe, là, vendredi à 21h. Mais c'était pas toutes les semaines. C'était on a tout, le créneau du vendredi, je crois, quand il y a eu la scission, on l'a partagé une fois tous les 15 jours. Avec ceux qui étaient restés à Nopasaran, et après, comme ils n'ont pas donné signe de vie, ça a été donné par Radio Libertaire à une autre émission. Je crois que c'était tout de suite été les amis d'Orwell, ou il y a eu d'autres gens.
En fait, c'est pas exactement comme ça que ça s'est passé, parce qu'il y a eu un conflit d'abord. Il y a eu en réalité, on était sur le créneau du jeudi. Après, comme tous les scissions, c'est qu'au début ça commence relativement bien, et après les embrouilles arrivent et ça se tend un peu plus. Enfin, déjà s'il y a une scission, c'est que ça se passait pas si bien que ça, mais il peut y avoir une séparation qui a l'air de bien se passer, et puis au fur et à mesure du temps ça part en conflit. Et c'est ce qui s'est passé sur l'émission de radio, c'est-à-dire qu'en fait au départ on s'est dit bon bah on va en faire une tous les 15 jours, vu que de part et d'autre, c'était des groupes qui n'étaient pas déjà très importants au départ. Et puis pour trouver des gens motivés sur la radio, c'est pas forcément évident. Donc c'était vraiment plus facile pour les deux groupes, sauf qu'à un moment donné, Nopasaran a dit non, c'est notre émission. Et en fait, nous on a dit, c'était pas convenu comme ça. Donc il y a eu un conflit. Dans ce cas-là, Radio Libertaire décide d'annuler l'émission, tout simplement, et on refait d'autres propositions. Je pense que Nopasaran n'était pas très intéressé pour faire finalement une émission de radio, donc n'a pas reproposé. Donc malheureusement, il n'y a eu qu'une émission au final qui était la nôtre. Par contre, on n'avait toujours pas les forces pour le faire toutes les semaines. Donc on avait demandé à, une émission, à des amis qui étaient plutôt dans la partie écologie. C'était la Grenouille Noire qui avait fait tous les 15 jours. Après, ça a été remplacé par les amis d'Orwell. Ouais, jusqu'à présent, il y a eu deux émissions une fois sur deux, en fait. Une fois sur deux, c'est les amis d'Orwell, encore actuellement, et une fois sur deux, c'était la Grenouille Noire au départ.
Voilà. On a été souvent suivis par les camarades de Sabous sur les pavés, donc on s'entendait bien, et précédé dans la grille d'émission le vendredi par l'émission espérantiste, qui nous ont donné pas mal de coups de main au niveau technique et au niveau logistique. Et aussi Émeric, on salue Émeric, qui nous donne beaucoup de coups de main techniques et de diffusion.
Oui, c'est ça. Ben après, ça c'est beaucoup plus tard en vérité. Hein. Ça, c'est... Parce qu'on va reprendre l'historique au départ. Quand on est à Nopas Haran, donc il y a un technicien qui passe beaucoup de punk, etc. Donc c'est vrai que Nopas Haran, c'est très lié au mouvement rock alternatif, donc on était beaucoup sur ce type de musique. Après, c'était aussi des émissions beaucoup plus axées sur l'activisme, c'est-à-dire des manifestations, des comptes rendus de manifestations, aussi d'actions antifascistes, par exemple. Et après, petit à petit, bah, en fait, c'est ce qui va donner après Offensive. Il y a pas mal de gens qui sont intéressés par le contenu du journal, par le journal qui s'appelait Nopas Haran, qui était un mensuel, et donc qui utilise en fait le journal comme pour retranscrire les émissions de radio, et inversement pour attirer des auteurs ou des personnes intéressantes qui vont ensuite participer au journal, et c'est un peu la formule qu'on prendra après pour Offensive. Donc voilà, moi on voulait parler un peu de la genèse. Donc c'est pour ça aussi qu'on était intéressé pour prendre le truc, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui participaient à la radio, qui après participaient à la radio en tant que Nopas Haran Scap Reflex, et qui après ont participé à l'émission de radio suivante, quoi, en fait. Et donc en fait, pour résumer, Offensive Sonore, Offensive Libertaire Sociale plutôt, est un groupe qui se forme aussi autour d'un journal. C'était pas vraiment forcément une ambition au départ, on voulait peut-être aller plus loin que ça, mais au final c'était quand même un groupe qui produisait un journal principalement et qui avait quelques petites luttes à droite à gauche, mais c'était plus, on faisait partie de collectifs plutôt qu'on lançait des grandes initiatives. On n'avait pas forcément les moyens de lancer des grands mouvements, quoi.
Je confirme. c'est tout à fait vrai, Cyril. C'est un peu comme ça qu'on est parti. Par exemple, le groupe parisien était à une scission à 50-50 avec le Scap Reflex à l'époque. Et donc, on a continué à vivre comme on le faisait déjà aussi à travers le Scap Reflex, Nopas Haran, à travers des luttes que l'on menait collectivement, des collectifs de lutte anticapitalistes comme le réseau pour l'abolition des transports payants, comme le collectif contre le publisexisme. Ou d'autres luttes comme ça, le soutien pour Mouyabou Jamal dans les couloirs de la mort, les luttes écologiques. On a tout de suite été sensibles à la lutte anti-publicitaire, aux luttes contre le nucléaire. Donc ça, c'est des trucs qu'on a gardés et qu'on a développés aussi. La critique aussi, qui est arrivée dès le deuxième ou troisième numéro d'Offensive, c'était la revue papier Offensive. Avec des rencontres aussi via Radio Libertaire avec Jean-Luc Porquet sur Ellul, c'était la critique de la domination, de l'emprise technologique et de l'emprise technique, la réflexion sur la technique, l'emprise technologique. Et ça, c'était un trait qu'on va retrouver beaucoup dans Offensive, mais voilà. Tout en gardant une réflexion sur antifasciste. On a pu faire une émission sur quand on regardait l'émission avec les copains. Sur les archives, il y avait des trucs sur la galaxie de données ou d'autres choses comme ça.
Ouais, il y a eu quelques émissions sur l'antifascisme, mais c'était plus soit des analyses liées à des ouvrages, en fait. C'est-à-dire il y a eu un livre sur la galaxie de données, il y a eu un livre sur l'imagerie d'extrême droite, et sinon c'est des choses sur des luttes anti-répression assez simple. En fait, ouais, il y a eu cette période-là où effectivement ça nous servait C'est-à-dire qu'on, quand on avait un auteur qui participait au journal, on pouvait lui dire est-ce que ça t'intéresse de venir à l'émission de radio ? Et des fois, le fait de proposer une émission de radio, c'est autre chose que de dire viens, on va boire un café, on va discuter. Ça permet de rencontrer des gens intéressants, parce qu'on a quelque chose à leur proposer. Finalement, on a une visibilité, même moindre, même petite. Ça les intéresse quand même de parler de leur ouvrage pendant une heure et demie. Et du coup, on va rencontrer des gens et on va pouvoir parfois faire soit des luttes, soit si dans une moindre mesure écrire des articles simplement ou participer à des ou alors même tout simplement retranscrire l'interview qui va être après sur papier quoi.
Oui, là on peut donner des exemples. Par exemple, sur la question des services publics, quand on voulait avoir une position anarchiste, révolutionnaire, anti-autoritaire, libertaire sur cette question là on a invité par exemple quelqu'un du monde diplomatique,
Serge Halimi,
ouais. Serge Halimi, pour pouvoir le pousser dans ses retranchements et voir avec sa position anti-libérale qu'est-ce qu'il avait à nous dire et qu'est-ce qu'on veut nous et qu'est-ce que ça pouvait nous éclairer nous sur nos positions critiques de l'État par rapport aux services publics. Ou à des moments on a invité des gens sur l'écologie, je me souviens qu'on avait invité Farfassi Nicolino, une personne qui a écrit qui a pu écrire dans la décroissance, qui est liée à Charlie Hebdo maintenant, sur les agrocarburants. Donc Radio Libertaire avait comme une certaine aura, et le fait d'avoir des émissions longues où on laisse parler les gens, ça intéressait.
Et puis c'est quelque chose à proposer et quelque chose qui, ouais, c'est ça, c'est ça s'auto-alimente, c'est-à-dire l'émission en elle-même, c'est quelque chose, ça peut être retranscrit et ça, il peut y avoir une suite à l'émission, il peut y avoir des débats, etc., des choses.
Oui. Moi, je me demandais, du coup, parce que j'ai rejoint plus tard le collectif, si à cette époque-là, vous aviez fait, en dehors de la radio et de la revue, de participer à des événements ou d'organiser aussi des événements en dehors de,
voilà, bien,
de
la bien revue. Bien sûr, après, c'était un collectif qui... Alors, sur Paris, par exemple, c'est une vingtaine de... J'exagère peut-être un peu. 15 activistes, mais vraiment, par exemple, en face de moi, Jérim Sow, mais c'était à l'époque, c'était tout le temps en manif ou en grève, quoi. Je sais pas, il y a aussi le niveau, parce que c'est vrai qu'il peut y avoir 100 personnes, mais si 100 personnes font un truc par semaine, c'est différent que. Enfin, il y avait vraiment.
Je suis pas sûr de bien comprendre la question de Daman. La question de Daman, elle se passait que le collectif qui faisait l'émission Offensive Sonore était lié à un groupe politique.
Non,
c'était le groupe, comme c'était lié à un groupe politique, Offensive Libertaire et Sociale, qui éditait la revue Offensive, on menait des combats politiques sur différents sujets, plutôt dans des collectifs de lutte, transport gratuit, publisexisme, collectif contre la société nucléaire. Et à côté de ça, l'émission Offensive Sonore, en tant que telle, n'avait pas d'identité propre que ça, dehors de la radio. Mis à part de participer comme chaque émission de Radio Libertaire au fonctionnement de Radio Libertaire, aux AG, à la fête de Radio Libertaire qui avait lieu dans le 11e là-bas, et on participait comme ça.
Mais après, je prends au nom de Offensive Libertaire et Sociale, OLS, y avait des en gros notre façon d'agir, c'était de créer des collectifs ou de participer à la création de collectifs et après d'intervenir. On a toujours été sur l'autogestion. Donc, quand on crée, par exemple, le collectif contre la société nucléaire, le but, c'est pas de contrôler ce collectif-là et de mettre son logo au LS dessus, c'est de voir si un collectif peut se créer. Et même le mieux, ce serait qu'ils deviennent autonomes et qu'ils fonctionnent sans nous. Mais après, nous, ce qu'on aimait bien, c'était impulser des créations collectives. Et il y a certaines choses, par exemple, je pense au début de la lutte anti-publicité, où il y a eu des trucs qui étaient assez... Enfin, s'il n'y avait pas OLS derrière, il n'y avait pas grand-chose. Et c'était, par exemple, semaine anti-pub. On pouvait faire... Donc c'est vrai que là, c'était un moment où on avait aussi plus de temps, plus d'énergie... Mais ouais, c'est vrai, il y avait une manif de soutien aux anti-pubs qui avaient été incarcérés. Ensuite, il y avait un débat organisé dans un cinéma squatté. Ensuite, il y avait quelques débats organisés dans différentes librairies, ce qui faisait un programme de 7-6 jours qui allait derrière. En plus, c'était pas rien, ça veut dire qu'on récoltait de l'argent pour les procès, on informait, on faisait caisse de résonance, etc. Et on commençait aussi, on éditait des autocollants, etc. Donc il y avait vraiment de l'activiste pur et dur sur certains sujets, je pense le féminisme ou l'anti-publicité, la technocritique. Il y a eu un moment où on était vraiment bien plus qu'une revue, c'est sûr, assez investi dans pas mal de collectifs et assez qui faisait le relais. La faiblesse et l'avantage d'être petit, c'est qu'on est obligé de s'allier avec d'autres personnes et du coup on est obligé de faire du lien. Et la politique pour moi c'est faire du lien, c'est-à-dire essayer de trouver des points communs entre les gens, entre les collectifs, entre les personnes pour pouvoir lutter ensemble, quoi.
Oui, carrément. Non, la question c'était juste si vous organisiez des événements en tant qu'offensive sonore, offensive libertaire et sociale ce moment-là.
Mais il y avait un petit peu, mais comme j'ai dit, le but c'était de surtout passer par des collectifs. Ouais. Mais il y avait par exemple un débat par numéro. Et ouais. Non mais tu voulais dire, vas-y.
Non, c'est ça. Je voulais confirmer, oui, qu'à chaque numéro, comme on faisait les numéros trimestriels, en réfléchissant bien en amont, en préparant dans des coordinations trimestrielles les revues avec un comité éditorial qui était partagé par tous les membres de l'organisation, ça permettait de faire des ponts. Comme on a fait des ponts aussi entre émissions de radio. Notre émission de radio, des fois, a été rediffusée sur Marseille et sa région. Comme on a pu rediffuser des émissions de Fréquence Paris Pluriel, Canal Sud à Toulouse ou Les Grégores à Reims, parce qu'on aussi il faut expliquer que une spécificité de notre histoire, ça a été aussi à un moment le rapprochement avec l'organisation communiste libertaire, l'OCL, qui édite le journal Courant Alternatif, parce qu'on a fait une paire d'années, je ne sais pas combien, de rencontres libertaires en Ariège avec cette organisation-là, OLS ou OCL, faisait des rencontres communes. Et aussi, il y a eu des débats de ces rencontres communes qui ont permis d'alimenter le journal ou qui ont permis de développer notre esprit et de se dire on va inviter telle personne ou pas à la radio.
Oui, donc en fait, ouais, c'était les campings. C'est parce qu'on dit, quand on dit rencontre libertaire, ça peut être un peu grandiloquent, mais c'était surtout aussi parce que légalement, ils n'avaient pas le droit de l'appeler camping. Mais c'était camping aussi au départ, quoi. C'est-à-dire à peu près une centaine de personnes qui se regroupent en Ariège, donc dans une ferme d'un ami, où on a un local et des choses, des douches, etc. Et on peut aussi, l'idée c'était qu'à partir de 21h, 20h, on fait des débats. Et donc nous aussi, en fait, on a impulsé de ces débats. Il y a eu deux numéros communs d'ailleurs d'offensive libertaire et sociale et courant alternatif. Donc je crois que c'était... Ah non, il y a deux. Il y en a eu un sur mai 68 et un autre sur le militantisme. Après, oui, c'est vrai qu'il y a eu aussi un truc qui était sur le nationalisme. C'est-à-dire tout ce qui était lutte de libération nationale, qui était, je sais pas s'il était aussi commun. Donc il y en a eu trois. Effectivement, c'était une période où on avait beaucoup de discussions ensemble. Et en fait, on n'avait pas non plus l'idée de se fusionner, parce qu'on était vraiment, on fonctionnait de manière très différente, en fait. C'est vrai que c'était un moment où on a eu beaucoup d'échanges. Certains échanges, d'ailleurs, où on n'était pas d'accord, mais sur la plupart, si on s'était réunis, c'était qu'on était d'accord en fait sur l'essentiel, sur la façon dont on s'organise, etc. C'est vrai que l'OCL a beaucoup de défauts, mais ils travaillent beaucoup en commun, ils réfléchissent beaucoup sur ce qu'ils écrivent, et ils ont une manière très démocratique, par exemple, de faire fonctionner le journal. C'est-à-dire qu'il y a des rédactions tournantes, il y a des discussions sur les articles, il y a un retour sur les articles. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'on a appris d'eux, en fait, je pense.
Mais on avait le même point de vue, comme tu as expliqué tout à l'heure, sur le... Sur le fait de ne pas favoriser une organisation pour elle-même, mais c'était d'être communiste, anarchiste, être révolutionnaire, et de faire valoir les luttes pour elle-même et de développer les luttes. Mmh. C'était un peu ça notre point d'accord, et le fait qu'on était qu'on voulait réfléchir en dehors des sentiers battus de l'anarchisme traditionnel. Sans dogme, sans foi ni loi, quoi.
Ok, petite pause musicale et on se retrouve tout de suite après.
Le triomphe de l'Occident repose avant tout sur la religion matérialiste du bonheur terrestre par la consommation et de la satisfaction toujours renouvelée des désirs. Vive la société de consommation pour les riches et pour les pauvres.
Attaque la banque mondiale. Attaque la banque et brûle le fric.
Voilà, Radio Libertaire 89.4. Et ouais, pour dire que donc il y avait effectivement ce morceau de Mycélium, donc hélium pour dire que c'est léger quoi. C'était pour dire que c'était du son assez lourd, et c'est le genre de truc qui passait en fait dans les manifs anti G8. Donc c'est vrai que c'est plutôt entre le début de la création de la fin de notre passage à Nopasaran. Et après il y a eu donc il y a plusieurs périodes, donc ça fait 10 ans, finalement 10 ans d'offensive libertaire et sociale. Et il y a eu en même temps, peu avant, c'était la création de Quilombo, donc il y a déjà une librairie l'équivalent de Publico, plus proche du CICP, qui est un lieu collectif où il y a pas mal de concerts de punk et concerts de soutien.
Et tiers-mondiste issu de la gauche PSU, tiers-mondiste, voilà. Avec beaucoup de boîtes à lettres et de collectifs et d'associations.
Je sais pas ce que ça veut dire, CICP d'ailleurs, collectif.
Centre international des cultures populaires. Ouais. Et donc c'est avec beaucoup d'associations de pays qui étaient et de réfugiés. Mmh. Qui avait droit de cité là-bas. Il y avait aussi le collectif national des droits des femmes, des choses comme ça.
Le COSIMAP à l'époque, c'était le collectif de soutien aux prisonniers politiques à Moumia Abou Jamal. Ouais, mais énormément d'associations, que ce soit des associations d'ailleurs très SOSDEM, des associations très radicales, mais en fait, c'est un lieu où on peut ouvrir une boîte aux lettres et puis pour peu cher faire des réunions et même de temps en temps faire des concerts de soutien. Et donc il y a aussi tout un collectif de le CCCP qui faisait le collectif des concerts
collectif contre culture, le CCC.
Ouais. Collectif contre culture. Ouais. OK. Et donc qui faisait à l'époque un concert par semaine le dimanche. Et toujours pour une cause, donc ça peut aller des anti-pubs jusqu'à la révolutionnaire de Waraka, etc. Et je pense que ça continue encore d'ailleurs. Donc il y avait Quilombo qui fait pas partie du CICP mais qui est juste un numéro plus loin, qui est une librairie indépendante et libertaire, donc qui contrairement peut-être à Publico, pour faire une légère différence parce que c'est vrai que c'est quasiment la même chose, mais Publico va plus être sur la culture anarchiste et libertaire sur cette partie-là. Quilombo, c'est plus les mouvements sociaux, en fait. Il n'y a pas que ça. On peut retrouver les mêmes ouvrages hein, dans les deux librairies, pardon. Mais il y a cette spécificité, justement, d'être proche du CICP, donc d'être sur les luttes internationales et les luttes en général. Donc il y a pas mal. Il y aura peut-être davantage de livres marxistes à Quilombo. Voilà. Et donc, ce qui est important de dire, c'est que dans l'équipe de Quilombo, il y a des gens de l'OLS. Et l'équipe de Quilombo elle-même va créer une maison d'édition qui s'appelle L'Échappée, qui est assez connue maintenant. En fait, ils ont fait pas mal d'ouvrages. Je pense que les premiers ouvrages étaient Pour en finir avec le sexisme et les Black Panthers.
Il y avait aussi un ouvrage de histoire anarchiste.
Oui.
Qu'est-ce que l'anarchisme? Une traduction d'un livre d'Alexandre Berkman, le compagnon de
Emma Goldman.
Emma Goldman. Et donc il y a eu des volontés de refaire de l'histoire du mouvement anarchiste et des mouvements peu connus dans le mouvement anarchiste. Il y a eu beaucoup d'ouvrages aussi d'Einsteiner, une camarade qui est maintenant à Quilombo aussi. Donc voilà, c'est des passerelles qui se font entre édition et librairie et réflexion sur le monde.
Je crois que un des premiers ouvrages aussi, c'était la réédition de RAF, de la Red Army Fraction, d'Einsteiner et de l'autre auteur qui m'échappe. Il y avait deux auteurs pour ça, mais Einsteiner, oui, qui est historienne des mouvements libertaires, notamment sur les en-dehors, donc qui a fait pas mal d'ouvrages, entre autres, à L'Échappée, et qu'on a invité plusieurs fois, d'ailleurs, à l'émission. Et donc, voilà, tout ça pour dire que c'était aussi une grande source d'émissions, puisque eux, ils avaient besoin, quelque part, de faire parler de leurs ouvrages, et nous, on avait besoin de faire des émissions, donc ça s'est retrouvé. Et comme, pendant toute cette période de 10 ans, ça pouvait... ça pouvait faire aussi l'objet après d'une retranscription et d'être dans le journal, et ça pouvait être aussi un moyen d'entrer en contact avec certains auteurs et après pouvoir leur proposer des choses à l'échappée, des débats qui l'ont beau. Enfin, en gros, ce monde là nous a permis d'avoir, voilà, de mutualiser en fait les efforts, on va dire.
Ouais, c'est la radio comme espace d'échange et espace de possible pour alimenter les écrits et faire de l'information sur les écrits et les faire partager à tout un chacun, tout un chacune, via la diffusion en hertzien. Comme nous, on a toute une réflexion qui s'est montée en place sur la critique des moyens modernes de communication. Ça, on tenait à ça, la culture du papier, de l'écrit, des choses qui restent, la culture aussi de faire parler des choses qui ont été produites à travers une radio qui est tout écoutable par tout un chacun gratuitement, avec une audience qu'est-ce qu'elle de celle de Radio Libertaire, mais que tout un chacun, un jeune homme, une jeune femme qui veut découvrir les idées anarchistes peut tomber sur des émissions qui lui bouleversent sa vie, parce que ça passera en direct sur Radio Libertaire.
Après, je venais à préciser aussi que, bah, parce que comme je l'ai présenté, ça faisait un peu réseau commercial de réseau entre amis. Faut voir après, c'est vraiment, par exemple sur Quilombo, il y a beaucoup de bénévolat et celui qui est salarié gagne très peu ce qu'il pourrait gagner en dehors. Donc c'est vraiment quand même du militantisme. Hein. C'est pas, faut pas croire qu'il y ait beaucoup d'argent qui circule là-dedans. C'est vraiment histoire de faire circuler des idées et aussi dans les débats, par exemple d'amener des gens à débattre sur les ouvrages. Ça va permettre de faire de faire circuler une discussion, d'avoir aussi de l'éducation populaire tout simplement. C'est-à-dire que moi aussi, ça on n'a peut-être pas dit comment on a démarré dans le militantisme, mais moi je me souviens du tout début, ce qui était vraiment intéressant, c'était les débats à la CNT Vignol avec des vieux anards parfois qui venaient d'Espagne, etc. Et là on pouvait discuter, on voyait les engueulades, etc. Et c'est ça la formation qu'on a eue, quoi.
Je voulais voir après, du coup, à l'échappée, vous avez fait le premier livre « Divertir pour dominer » qui était écrit par l'OLS. Du coup, ça s'est fait comment, ce bouquin ?
Alors, la genèse, c'était la revue offensive la revue d'offensive libertaire sociale offensive, le trimestriel, avait fait différents dossiers qui ont été rattachés après éditorialement par les camarades de l'échappée sur la culture de masse, parce que le sous-titre de Divertir pour dominer, c'était la culture de masse contre les peuples, et donc c'était la réédition en version livre pour garder une trace et faire augmenter le lectorat et faire partager les idées de plus en plus loin à travers un écrit durable qui est le livre, des positions qu'on avait pu avoir dans la revue offensive. Et donc voilà, ça poursuivait les débats qu'on avait pu avoir sur la radio ou ailleurs, les interviews qu'on avait pu faire, les textes qu'on avait pu écrire avec les rencontres qu'on avait fait, aidés par le médium
du livre,
de la radio libertaire pour certains, ou par les rencontres militantes que l'on avait, ou par nos réflexions théoriques qu'on s'était forgées tout un chacun, avec une certaine éducation personnelle et populaire que l'on avait. C'était ça qui était prédominant, c'était comment on se forme. Et comme nous aussi, on essaie de faire partager aux autres, nous on est communards, on est partageux, on est partageuses, partager le savoir qu'on en a appris aux autres pour essayer de transformer à notre niveau, au moins le débat, participer au débat intellectuel et défendre des causes qui nous semblent justes et dignes d'être mises sur la place publique d'une façon le plus intelligente possible.
Et après, c'est, je crois qu'il y a trois dossiers dedans. Et on a trouvé un lien, en fait, entre ces dossiers-là. Parce que le premier, en fait, première chose qui est sortie chez Offensive, donc le journal, hein, c'était un journal qui était, on n'a peut-être pas bien expliqué, c'était un journal qui était distribué en kiosque. Donc malheureusement vous pouvez pas le retrouver. Après si vous allez sur le site offensive.samizdat.net, vous allez retrouver tous les PDF de tous les numéros, mais c'était un journal qui était à l'époque, donc dans la presse libertaire, assez clinquant, c'est-à-dire après il y avait pas mal de gens qui travaillaient dans l'édition qui faisaient partie d'Offensive, donc il y avait ce côté-là bien, un objet bien fait avec des articles assez intéressants, donc ça l'a placé un peu en tête de point de vue qualitatif, en fait. Il y avait pas mal de qualité au début où on a démarré, hein. C'est-à-dire que à l'époque, Le Monde Libertaire, c'était un hebdomadaire, et c'était, il y avait une nouvelle maquette, etc. C'était assez bon à l'époque, mais malgré tout, le fait de beaucoup s'investir en fait sur la revue faisait un peu une revue modèle, on va dire, même si c'était un trimestriel, donc ça paraissait pas autant. Et donc ça a permis, je pense, enfin de toute façon dans le milieu libertaire, dès qu'il y a une montée en qualité, je pense que tout le monde suit, tout le monde essaie de s'adapter, et donc ça a permis d'avoir des belles revues après par la suite. Ouais. Et je sais plus pourquoi je disais ça. Mais du coup, oui, il y avait plusieurs dossiers. Donc, les revues offensives étaient tournées autour d'un dossier. La couverture et la majorité des pages étaient sur ce dossier-là. Et le premier dossier, ça avait été sur la télévision, parce qu'il y avait beaucoup de gens qui faisaient partie du RAT à l'époque. C'était Réseau d'abolition de la télévision. On était un peu avant la montée en puissance d'Internet. Donc, il y avait vraiment ce média qu'on supportait pas. Et voilà, c'était prédominant à l'époque. Et donc, il y avait cette idée-là. Et en plus, ça rejoint la première thématique qu'on avait, c'est-à-dire le côté technocritique. C'est qu'on disait, il ne suffit pas de dire éteignez votre télévision ou changez de chaîne, allez sur Arte. On pense que l'objet télévision en soi pose problème.
Oui, et le truc en anglais, c'était The Medium is the Message. C'est le canal de diffusion. La technologie, la technique qui est utilisée n'est pas neutre. C'est ce qu'on a forgé de plus en plus. On a l'échappée très vite était en cheville, par exemple, avec pièces et main-d'œuvre. Il faut une focalisation importante sur la question de la technique et la technologie. C'est que nous, on a très vite, je crois que c'était dossier numéro 3, comme on le disait à Offensive, abordé la neutralité de la technique.
Et on fait encore une pause musicale et on se retrouve après justement pour parler des thématiques en fait développées dans les émissions de radio libertaire et d'offensive sonore.
Pas l'uniforme. Double, triple, trouble, incolore, informe. Elle s'immisce en tout, se mêle de tout, se ressent partout, centrale, sans bruit, sans rien d'écrit, sans aucun parfum, de la moindre gâchette, parfois même avec des talents de poète. La meilleure des polices demeure inégalable. Dans l'art de tous nous mettre à table, tous en place, tous remis en cage. Sans effusion ni rage, aucun usage, d'aucune trique, d'aucun bracelet à serrure métallique. La meilleure des polices n'extorque pas de renseignements. Elle ne gâche pas son temps, des heures durant au fond d'un poste puant à faire couler le sang du dernier schlag échoué en cellule de dégrisement. La meilleure des polices chasse sur les terres, du paradis sur terre, qu'elle vend clé en main, où on connaît le moyen de procurer l'envie de rien, la peur de tout, l'effroi de la joie, l'angoisse du chagrin. La meilleure des polices, c'est tout ce qu'on te prend, tout ce qu'on te laisse, tout ce qu'on tue en toi, tout ce qu'on te mâche, tout ce qu'on te crache, tout ce que tu becques pour gagner. garder le goût de moisir à crédit dans un putain de trou. Tout ce que tu becques pour garder le goût de moisir à crédit dans un putain de trou. Tout ce que tu becques pour garder le goût de moisir à crédit dans un putain de trou. La meilleure des polices c'est ton taf, ta télé, tes crédits, tes anxiolytiques, neuroleptiques, antidépresseurs. Et tout ce que tu prends pour pleurer moins fort la nuit. Tout ce que tu paies. La meilleure des polices, c'est tes sourires forcés. C'est tes retenues sur salaire et le découvert avant la fin de la semaine. C'est la peur de faire un pas, puis deux, puis trois. Parce qu'enfant, on t'a dit que t'étais une merde et que t'as fini par le croire. La meilleure des polices, c'est tout ce qui te fait marcher droit, avec ton propre consentement. Sans jamais oser montrer les crocs, quand bien même on te propose de t'enculer. Tu pectes pour garder le goût. La meilleure des polices, c'est quand les pauvres savent rester à leur place, sans besoin de les matraquer, de leur coudre la mâchoire, ou de les mettre au cachot. La meilleure des polices, c'est ce qu'on apprend de mieux, du berceau au tombeau.
La rumeur sur Radio Libertaire 89.4 et l'émission Offensive. C'est la dernière émission d'Offensive Sonore. Offensive Sonore, oui, exactement. Et donc, d'ailleurs, la rumeur, on les avait reçus quand ils avaient eu un procès. En fait, ils ont eu un procès contre. C'est plutôt le ministère de l'Intérieur de Sarkozy qui leur avait mis un procès pour diffamation de la police. Et du coup, là, c'est. C'est dans ce deuxième album-là où ils ont ils avaient fait cette chanson-là. Et donc, du coup, on voulait parler aussi de l'évolution d'Offensive Libertaire Sociale au sens large et aussi de l'émission de radio. Et c'est vrai qu'on a parlé de technocritique. Il y avait aussi le... Donc on venait un peu du militantisme classique et il y avait aussi le côté anti-répression au départ. Pas mal de choses là-dessus. Et aussi féminisme. On était un peu à l'avant-garde de certains mouvements. Par exemple, on parlait pas mal du genre et tout ça. Dans des années, je parle des années 2003-2010, où franchement, c'était pas vraiment courant comme discours. Il y a même eu des articles sur le côté queer, etc. Même si on était un peu critique aussi du côté tout est possible, mais y avait ces idées-là qui circulaient et c'était nouveau à l'époque, c'est-à-dire que on en parlait, mais un peu comme regardez, il y a des possibilités là-dessus, etc. Comme maintenant, je pense que tout le monde voit de quoi on parle. Si on s'intéresse un petit peu au sujet du militantisme, on comprend un peu, mais franchement, c'était quelque chose d'assez novateur, assez méconnu plutôt dans le milieu français en tout cas.
Oui, on avait pas mal accompagné la nouvelle vague du féminisme.
Après, c'était pas celle-là, c'était pas le côté trans, etc.
Non, la nouvelle vague de l'époque où les gens abordaient l'idée de déconstruction des genres, l'idée c'était féminité, virilité, non la norme, non cliché. Les campagnes qu'on a pu mener avec des groupes LGBT comme les Panthères Roses, avec mixité, avec le collectif contre le public sexisme, des campagnes notamment contre les choix sexistes.
Exactement.
Et donc on a pu avoir des alliances aussi à la fin de nos passeranes et qui ont continué au début de l'offensive libertaire sociale avec des gens comme La Meute, Madame Moreno et des choses comme ça sur la publicité, les images des sexistes. Et à chaque fois on essayait d'amener le versant libertaire et action directe. Occuper des agences de publicité, des magasins qui avaient fait des imageries dégradantes et stéréotypées. Mmh. Et donc ça a été aussi des réflexions sur qu'est-ce qu'être un homme, qu'est-ce qu'être une femme, et après l'évolution, on a vu des évolutions sociétales qui ont, sont arrivées et qu'on a peut-être notre vision du sujet a pu évoluer.
Il a beaucoup évolué, je pense, parce qu'il y avait effectivement il y avait ce numéro genre et sexualité où on questionnait le genre, donc forcément on tombe sur du Butler, Delphi, etc. Et après, c'est vrai qu'il y a eu un peu une contradiction. En fait, c'est vraiment là, on était tiraillé. Il y a eu plusieurs tiraillements en fait dans notre évolution. Et il y a le côté effectivement par exemple. Donc c'est un peu, c'est presque la fin en fait d'Offensive. Mais par exemple, les réflexions qu'on a eues sur la PMA. Là on voit la limite en fait entre le mouvement LGBT+, souvent qui est très favorable à la PMA, qui pousse, etc., même parfois vers la GPA, et nous on avait un discours avec ces réflexions anti-industrielles enfin pas forcément anti-industrielles mais au moins technocritiques, on avait un discours sur ça qui était pas forcément qui était plutôt défavorable à la PMA, en voulant allier aussi la partie féministe. C'est-à-dire, c'est ce qui a donné un article un peu polémique sur pour une contestation progressiste de la PMA. Et donc voilà, c'est ce genre de choses sur lesquelles on a évolué, je pense. C'est sur le côté, au départ, on était presque fer de lance des mouvements queer. Et à la fin, on était presque vus comme des réactionnaires sur les jusque boutiste de ces mouvements-là.
Moi, c'est vrai que j'avais beaucoup aimé la revue et c'est pour ça que j'ai rejoint du coup il y a 10 ans. J'aimais bien aussi le côté un peu critique de toute la constellation libertaire et un peu de prendre à rebrousse-poil certains thème où tout le monde va dans le même sens. Et du coup, je suis arrivé un an avant la scission, enfin la scission, en tout cas l'arrêt de la revue. Et du coup, est-ce que tu peux dire vous pouvez dire quelques mots sur pourquoi la revue s'est arrêtée, quoi?
Je sais pas si tu peux passer le micro peut-être à Rimso, mais je peux commencer. En fait, en gros, je pense que c'est surtout le fait qu'il y avait vraiment un décalage. Donc c'est un peu ce que j'ai résumé, ça veut dire que d'un côté il y avait la partie technocritique qui était aussi pas mal sur l'édition, sur l'histoire du mouvement libertaire, etc. C'était un peu les mêmes personnes, et de l'autre côté il y avait des gens qui étaient alors je caricature, hein, mais côté antispéciste, antisexiste, etc. Et des fois il y avait des énormes grands écarts, quoi. Et même d'ailleurs le dernier numéro, en fait, je vais raconter un peu l'histoire, donc je sais pas si Rimso tu voulais en parler. Mais il y a des personnes en fait qui ont proposé un dossier qui a été refusé par la revue, et qu'en fait on s'est aperçu que c'était pas simplement ce dossier-là qui posait problème, c'était comment c'était possible qu'on était arrivé à la fin, c'est-à-dire au moment de la maquette, de s'apercevoir qu'on n'était pas d'accord sur quasiment rien des articles, aucun des articles, comment ça posait autant un problème alors qu'on était censé travailler démocratiquement sur cette revue. Donc ça a montré des failles, et je pense que cette fracture, elle était là depuis longtemps, en fait.
Oui, dans les nouveaux mouvements sociaux, contre toute forme de domination, avec l'arrivée intéressante des ZAD et plein de choses, on était partie prenante, on avait des militants plus jeunes, qui n'avaient pas connu nos passarans, qui étaient rentrés aussi par la qualité de ce qu'on proposait, le fait qu'on était quand même activiste et qu'on participait à des luttes, on participait au festival des résistances alternatives à Paris, où on avait rencontré Mycélium et d'autres gens. On a fait beaucoup d'émissions avec ces gens-là du FRAP, C'était, on était ouvert à divers champs de la critique de façon non dogmatique et toujours anti-autoritaire. Notre spécificité, c'était un recul historique aussi sur ce qu'était le communisme. On a eu plusieurs émissions avec notre camarade
Charles
Jacquier. Même après, il était à offensive avec nous sur Marseille. Il a continué après comme compagnon de l'émission. Il a été invité suite à la fin de la revue plusieurs fois par Daman et par Cyril. Donc, on a comment mener un combat pour l'émancipation sans s'enfermer dans les ornières que l'on peut voir maintenant d'éclatement dans la spécificité des luttes qui deviennent un peu identitaires. Ça rejoint un peu certaines réflexions que peuvent avoir aussi nos camarades à l'échappée. Qu'on publie un bouquin qui s'appelle Le piège identitaire, et on se retrouve un peu là-dedans. Et ça a donné des rencontres aussi qui nous ont été reprochées au sein de Radio Libertaire avec le collectif Le Commun. Et de comment aborder de façon non dogmatique, dans une version d'émancipation et de liberté, des questions sans tomber dans une ordière qu'on pourrait taxer de réactionnaire, d'homophobe, de tout ce qu'on veut, c'est que c'est compliqué. Et de nos jours, on se dépatouille tous et toutes avec ça, et que ce soit dans nos organisations syndicales, dans nos groupes associatifs ou de lutte, et on n'en est pas sorti. Mais Offensive, comme disait Cyril, a été un peu perverti de l'intérieur par des débats peut-être postmodernes et comme ça. Déjà à l'époque et de sa fin.
En fait, ce qui est compliqué aussi, c'est que par exemple sur ces genres de choses, c'est que le débat n'est pas vraiment possible, en fait. C'est-à-dire que c'est des gens qui vont dire toi, de toute façon, ce que tu dis, c'est... Enfin, moi, ce qui m'avait agacé, je me souviens dans ces débats-là, c'était que les gens commençaient par dire moi, en tant que blanc, bourgeois, tu vois, la phrase ne s'arrête jamais, c'est-à-dire privilège de ça, de ça, de ça, je dis ceci. Et moi, je disais, mais arrête de te présenter comme ça, dis ce que tu as à dire. C'est pas parce que tu auras fait une phrase de 5 km que tu vas pas dire une connerie derrière. Donc, moi, ça m'intéresse pas. Moi, ce que je voulais, c'est dans les revues, c'était des bons articles. Et j'en avais rien à foutre qui viennent du 9-4 qu'il ait fait la prison.
C'est pas ton identité qui fait que le propos va être...
Et en plus, justement, pour moi, l'idée d'un collectif libertaire, c'est d'oublier même tes luttes. Par exemple, quand on faisait partie des luttes anti-peine de mort, de pas tout ramener ça à ces luttes anti-peine de mort, mais d'essayer de réfléchir en commun sur une société future. Et c'était... d'apprendre des autres, tu vois. Par exemple, moi, j'étais pas vraiment sur le féminisme, et tu vas dans le collectif et tu reçois des informations des féministes, tu évolues dans ce sens-là. Si tu restes sur tes positions et dire ah, moi ça m'intéresse pas, moi je suis sur le collectif peine de mort, ou alors moi en tant qu'homme blanc on s'intéresse à rien d'autre que soi, on parle que par rapport à soi, on est que dans des espèces de... Ouais, on rejoint des espèces de groupes trotskistes où il n'y a que des positions dogmatiques. Et donc, c'était... Enfin, il y avait vraiment un décalage. Et c'est vrai que j'ai l'impression qu'on s'était fait avoir. C'est-à-dire, on n'avait pas fait avoir, pas dans un sens où... C'était pas forcément volontaire, je pense, des personnes. Je pense qu'elles pensaient bien militer, etc. Et n'avaient pas forcément cette impression d'avoir... pris nos outils, etc. Mais le fait qu'on soit peut-être trop dans dans l'action, dans la création d'un numéro, de passer à l'autre, on n'avait pas forcément vu que le débat ne se faisait plus, en fait. Le débat était vraiment impossible.
Bon, on va faire une petite pause musicale et on se retrouve juste après.
Okay.
Oh, Cinco Vanzetti, I just want to sing your name.
La police, la justice, le gouverneur, la pitole, n'ont tous qu'un seul but.
Cinco Vanzetti, symbole d'une condamnation politique.
Taco and Vanzetti.
Symbole d'une condamnation politique.
At the beginning of the story, there was a burglary in South Braintree. Later, police arrest Sacco and Vanzetti, based on no proof except the militancy. Two Italian anarchists living in a USA, supporting strike, distributing tracks, sentenced to death in a partial trial. Condemned because of the IDs, it's a fact. No God, no master. We send strength to our comrades all over the world. Any story, leaders have kept on persecuting anarchy. Here's to you, God and Nicola. We keep up the fight and destroy Napoleon.
Working class.
fait, on avait parlé de cette période-là où on était un peu sur comment il y avait des tensions. Et ensuite, ça a été la fin d'offensive journal papier, et puis aussi du groupe national et local. Et ensuite, on a décidé, quelques-uns, de continuer en fait, l'émission de Radio sur Radio Libertaire. Voilà, avec peu de force, hein, on était 4-5 au départ, et finalement, surtout 2. Daman et moi, et puis Ripso de temps en temps, hein, qui nous a aidés, soit pour nous trouver en fait, des invités. C'est vrai que tu as pas mal de contacts. Et ce qu'on on voulait parler, ouais, des invités récurrents qu'on a eus, parce que bah, c'est vrai qu'on a des amis dans le hip-hop. On pense à l'Inconsolable, à Natas qui était de la plèbe, mais aussi d'un un ancien groupe avant. Il avait, ouais. Bon, je ne sais plus comment ça s'appelle. Serna Natas, c'était. Bon, peu importe. C'est pas très, très connu, mais c'était des groupes de rap assez underground qu'on avait connus aussi au Frappe. Hein. Il y avait
Dub Amix aussi qu'on a vu. D'ailleurs, vous venez d'entendre là un son que j'ai fait avec Dub Amix, une rappeuse italienne.
C'était dans Camarade, je crois. Camarade ES. Et d'ailleurs, se retrouve aussi l'Inconsolable. Donc c'est aussi une grande famille de la musique underground et contestataire. Et qu'est-ce qu'il y a ? Donc il y a, bah, on s'est invité aussi nous-mêmes, je veux dire. Il y avait
Platano, Cyril, voilà. Qui a le micro.
Moi, j'ai fait du rap en espéranto. Je suis un des rares MC en espéranto.
On va écouter après.
On écoutera après,
la prochaine pause.
Sinon, ça donne un truc qui ressemble à d'espagnol. et Daman, ouais, qui fait partie de plusieurs groupes de dub, qui est un chanteur exceptionnel avec une voix incroyable. Non, c'est vrai, hein, je plaisante pas. Et pas mal de disques, dont le dernier disque solo. On a fait une émission sur ça. Après, bon, ça permet
disponible à Quilombo, d'ailleurs, le CD.
Voilà. Et à Publico.
Ah bon ?
Je sais pas.
Ah non, je crois pas. Pas encore.
Il faut que tu en mettes. Non, parce qu'à chaque fois, j'y ai Publico, parce que c'est quand même l'émission. Enfin, c'est sur Radio Libertaire, c'est ce qu'il faut citer. Hein, c'est-à-dire, c'est là-haut. C'est la radio de la Fédération anarchiste. C'est eux qui font. Qui font le secrétariat de Radio Libertaire. Voilà, c'est là où vous pouvez avoir des infos sur Radio Libertaire si vous voulez poser des questions. Et aussi, vous pouvez acheter votre carte d'auditeur, puisque c'est la radio sans publicité. Il faut le dire quand même, voilà, qui vit aussi de l'argent des contributions et des dons. Voilà. Tout ça pour dire que, voilà, on avait nos invités récurrents dans la partie musique, et sur la partie effectivement des auteurs, on se propose pas mal sur l'échappée, même si c'était moins le cas en fait récemment. On a fait très peu d'émissions, donc il y a eu Charles Jacquier qui nous a proposé des émissions historiques. Il y a eu, donc là c'est beaucoup plus récent, mais c'est
Souvarine du coup.
Ouais, c'était Souvarine, c'était aussi sur la commune. J'ai oublié le nom, mais. C'était un communard proche de Karl Marx, donc bien avant le marxisme et tout ça, mais qui était dans la Première Internationale. Il y a des choses là-dessus. Moi, j'avais fait, donc après, avec les liens que j'avais sur la Russie, parce qu'on avait médité un peu sur les prisonniers politiques russes, et donc ça nous a permis de rencontrer des Ukrainiens, donc avec la crise de 2014, donc ce qui était... Maïdan, etc. Récemment, on a fait des choses aussi avec sur l'Ukraine. Les noms m'échappent un peu. Il y a vraiment beaucoup.
Oui, avec un journaliste. Nicolas Trifon, voilà. Courrier des Balkans, ouais.
Voilà, ouais, Nicolas Trifon qu'on retrouve sur le Courrier des Balkans, donc qui est plus sur les Balkans et sur d'autres pays, mais qui connaît aussi très bien la situation en Ukraine. Et que dire d'autre.
Si par exemple on a invité Betty Lashgar qui était qui milite au Maroc et en France.
Voilà, le Mali.
Notamment au Maroc sur sur pour les droits des homosexuels ou pour l'avortement.
C'est, en fait, le collectif s'appelle Malien. C'est pas Mali le pays. C'est un collectif féministe qui se bat aussi contre l'imposition de la religion, etc. Qui est assez clair là-dessus.
Essayé aussi de varier, d'inviter des auteurs, de faire des émissions musicales et aussi parfois des émissions comme des reportages un peu embarqués. Enfin, je me souviens que j'avais fait pendant le mouvement des occupations des théâtres après le confinement au théâtre de la Commune à Aubervilliers d'aller interroger une troupe qui avait occupé le théâtre.
Il y a eu aussi la partie internationaliste avec pas mal de choses sur Java. Donc, comme beaucoup de monde, on suit, comme beaucoup de libertaires en fait, une révolution très proche des libertaires, puisque c'est issu. Enfin, ouais, c'est.
Et le PKK s'est rapproché. Municipaliste libertaire.
Voilà,
une personne du PKK, justement.
Voilà, ouais, qui est une organisation qui était. Moi, je pense qu'il a une mauvaise réputation parce que dans le passé, il était très lutte armée, etc., et marxiste, et qui maintenant s'est complètement retourné grâce à Ocalan qui a découvert le municipalisme libertaire. Et ça posait aussi des questions. Il y a eu pas mal de gens retour de Rojava, soit qui étaient sur le front contre Daesh et l'État syrien, et qui ont parlé en fait de cette révolution, en fait, hein, c'est une révolution, même si après, il y a toujours des améliorations à faire. Et justement, ça faisait partie aussi des thématiques, c'est que les gens nous disent, ouais, oui, mais c'est la réalité est parfois plus complexe que les choses. Mais je crois que c'est, au total, je crois qu'il y aura 5-6 émissions sur ce thème-là. Je pense que des autres émissions de Radio Libertaire ont dû s'intéresser au sujet, parce que c'est vraiment assez passionnant, en fait, quand on est révolutionnaire, de voir une révolution. Oui, en acte, quoi.
On ne s'interdit pas de penser à certains thèmes parce que ce ne serait pas dans le bon internationalisme anti-américain ou je ne sais pas quoi. Donc on a pu aborder le Rojava, comme récemment a été abordée la question de la révolution en cours en Iran, comme on l'a pu aborder dans le passé, essayer de comprendre et d'analyser les révolutions au Maghreb ou au Mashrek. Avec Nicolas Dessau de Solidarité Irak ou d'autres choses comme ça, et comment certains ne disent pas de penser toutes ces choses-là un peu conflictuelles pour essayer de les comprendre. On avait fait le choix aussi, comme tout est dit, en tant qu'émission de radio, on est producteur éditorial d'un contenu. On ne faisait pas le choix d'inviter que les gens avec qui on était d'accord, parce que sinon on n'aurait invité personne. Comme tous les rappeurs ou les reggae-man ou autres qu'on a invités, il y avait peut-être des choses sexistes dedans, il y avait peut-être des choses qui étaient anti-police primaire qu'on n'était pas forcément d'accord. Mais voilà, on essayait de faire comprendre le monde et de faire avancer une idéologie anti-totalitaire avec les invités.
Après, ça, c'est dès le début, même notre approche, c'était pas de faire du débat, parce que on peut toujours coincer une personne, mais on l'invite, voilà, sur. Par exemple, si on parle d'une personne qui est spécialiste de l'Irak, on va lui faire parler de son sujet et pas forcément le titiller sur ah ouais, mais t'es marxiste, machin, etc. On va pas. Évidemment, le but pour nous, c'est d'avoir de la connaissance. Et après, on partait du principe. Donc c'était un peu le cas sur certaines émissions en général où on se dit mais en fait la personne parle sans support, sans invité, et c'est facile de dire des bêtises parce qu'on n'est pas bon sur tout. On peut pas être bon sur tous les sujets, et donc voilà. En réécoutant les premières émissions, il y avait Guillaume Carino, qui est un excellent orateur, qui a beaucoup fait d'émissions au départ, et lui-même disait que voilà, sur la télévision, il avait lu 3-4 bouquins sur la télévision, il peut tenir 1h30, mais pourtant il avait du mal, parce que c'est difficile quand on n'a pas écrit un ouvrage dessus, quand c'est pas le cœur de sa thèse, de parler sur un sujet différent. Et quand on veut être assez pointu, bah, on invite les gens. Et c'est vrai que quand on, par exemple, quand j'invite une personne qui va me parler de, d'un chanteur russe, qui a eu des problèmes au moment de l'Union soviétique, etc. Bah, lui, il a écrit le bouquin dessus, donc il va être très, très érudit, il va pouvoir contextualiser, il va pouvoir mettre en mouvement, et ça va faire une émission beaucoup plus sympa que si moi j'adore ce chanteur russe. Bah, je vais être un peu plus Wikipédia, quoi, en fait. Je vais sortir des banalités, etc. Je serai pas très pointu et je risque beaucoup de me tromper. Donc ça, c'était aussi, même au-delà du fait que on accepte des opinions différentes, c'est aussi les gens qui ont travaillé dessus ont la légitimité pour en parler, quoi. Ouais, que ce soit qu'ils ont milité, soit qu'ils ont bossé le sujet, soit ils ont écrit un ouvrage dessus. Ouais, quoi.
On peut avoir une critique de l'autorité de la figure de l'expert avec notre vision technocritique. C'est pas pour ça qu'on refuse les gens qui se sont formés, qui ont réfléchi sur des sujets et qui peuvent nous apporter leurs billes. Avec tous les défauts qu'on peut avoir si on avait une vision dogmatique d'une organisation anarchiste ou révolutionnaire, d'être dans les clous avec tout ce qui va bien. Et Radio Libertaire, c'est des chouettes rencontres. Par exemple, on avait fait un dossier sur la prison, on avait vu qu'il y avait des manques à offensive. Et ben, on a invité quelqu'un d'autre qui était lié, c'était à l'époque à Fait de Bénotement, qui est décédé malheureusement, et pour parler aussi d'une autre vision de la lutte anticarcérale, parce qu'il était à l'envolée et tout ça, et dans l'émission, comme après venait le comité de solidarité avec le peuple basque, les gens sont arrivés, ils ont vu Afed, ils se connaissaient de la tôle, ben ils sont installés avec nous au micro, et l'émission, elle était enrichie par les camarades basques. Et ce que je voulais dire tout à l'heure, c'est qu'aussi, nous, les luttes de libération nationale, il y a le mot national, mais on ne s'interdit pas de les penser. Ça a été pensé sur la libertaire, et nous, on voulait aussi voir que les luttes, on peut être critique du côté identitaire, mais c'est pour ça qu'on ne va pas le rejeter abstraitement. Si le côté identitaire de la lutte se fait dans un cadre pour l'émancipation générale et pas enfermé dans son identité, banco.
Nur vi konas par Karibel, ĉu vi konas? the dreadful door. He shakes them, yes, we have blame. We'll not play their game. So we go come with our sound system. We have to bring, spread our vibes in. We organize our tribe away from capitalist time.
Sparky Riot, Platano, and La Digri Digri Domo. Sound Kai Power, Sono Kai Povo. Vocal remix, man. Yes, man. Descendos via Sexton Hayden, Platano, Platano. Esperanto versio.
C'était le magnifique duo qu'on a fait, enfin duo, Sparky Riot, qui est le groupe de Daman, du technicien, et moi j'ai posé un petit peu en espéranto dessus. Voilà, c'était la collaboration, et c'était Baldo bientôt, et un truc très, avec des textes très révolutionnaires. Et, pour une, et donc, voilà, on voulait terminer en fait, dire déjà où on pouvait retrouver les émissions. Donc en fait, il y a un changement dans... Donc nous, on mettait toutes nos émissions donc sur les... Il y a un site internet qui s'appelle Offensive Sonore Blogspot.net qui reprend toutes les émissions avec un petit descriptif et qui renvoie souvent soit vers un lien pour télécharger ou soit vers un lecteur Mixcloud. Mixcloud, c'est un peu l'équivalent de Soundcloud, mais qui est beaucoup plus libre. Et alors, on s'est dit, ah, pas de chance, au mois de décembre, ils ont changé de formule. C'est-à-dire qu'à maintenant, on peut mettre que 10 sons, 10 émissions seulement. Bon, ça peut être 10 musiques ou 10 émissions. Et donc, en fait, on s'est aperçu qu'en fait, ils ont quand même gardé l'ensemble de nos archives. Donc, alors, à l'heure actuelle, en tout cas, il y a 244 émissions d'offensive. Donc, ça fait... Ça fait 20 ans, c'est-à-dire 10 ans d'émission où on était avec Offensive, le groupe, et 10 ans sans. Et donc, voilà, et il y a des playlists sur lesquelles on aura des thèmes, donc par exemple anti-répression, féminisme, histoire. J'ai regardé ces histoires où il y a plus de choses, il y a 40 émissions à peu près. La partie aussi idéologie, donc effectivement, il y a des choses qui se recoupent, c'est-à-dire des catégories où il y a des émissions, on les retrouvera plusieurs fois. Mais voilà, ça permet de... Il y a une partie sur, par exemple, les pays Turquie, Kurdistan. Il y a pas mal d'émissions qui ont été faites. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Russie, parce que ouais, il y a des émissions, comme j'ai dit, un peu culturelles. Par exemple, sur le rock en Union soviétique. Et puis, il y a des émissions un peu plus politiques. Du coup, ça fait une playlist assez importante. Voilà, et aussi tout ce qui est lié à la musique. Il y a une playlist par rapport à ça. Donc ça, c'est Mixcloud. Donc mixcloud.com. Et vous cherchez Offensive Sonore, vous allez retrouver la partie où il y a toutes ces émissions-là. Après, que dire d'autre? Et continuez d'écouter Radio Libertaire. Hein, il y a plein d'émissions qui valent le coup. Et voilà. Et
vous pourrez peut-être retrouver certaines personnes de l'émission Offensive Sonore voilà. Plus tard, si on continue la route avec Radio Libertaire. Pour ma part, je remercie Radio Libertaire qui m'a permis aussi de rentrer dans le militantisme par son aura dans l'espace radiophonique en Ile-de-France et qui, je pense, a permis à beaucoup de militants, et on remercie les gens qui avaient lutté pour les radios libres, pour faire en sorte qu'une radio tienne financièrement, techniquement, en ayant leurs idées et en étant ouvert à d'autres idées. Et qu'il y a encore des luttes, et on sera toujours compagnons de lutte, des luttes en cours, les luttes pour ma part très écolo, anti-nucléaire, tout ça. J'invite les gens à se renseigner sur la relance du nucléaire. Il y aura une grosse mobilisation à Tours le 16 février, par exemple. Il y a les luttes contre les méga bassines avec une mobilisation le 25 mars. Voilà, on suit. On espère Radio Libertaire pourra rester un outil pour les luttes sociales, les luttes contre pour l'égalité, la justice sociale, comme sur les retraites et tout ça. Je pense que ça aura toujours un intérêt, à côté d'autres radios camarades comme François Ripperiel ou d'autres.
Et tu voulais peut-être annoncer des choses, des événements en plus de ça, non?
Pas non, ça va très bien.
Ok.
Et on vous laisse en musique, parce que notre émission Offensive Sonore, ça finit souvent par un medley musical. Et je sais pas si vous voulez dire quelque chose là-dessus, les camarades.
Non, bah je sais pas. Bah, après, il y a les projets reggae de Sparky Riot, de Daman en solo, etc. à suivre. Hein. Je pense que ça bouge beaucoup de ce côté-là. Et, que dire d'autre? Après, je sais pas, moi je renverrai sur le podcast Floraison qu'on a découvert. On a fait même, ils nous ont permis de passer un épisode. Donc, comme c'est vraiment un travail de fou, que je crois que c'est quasiment, enfin c'est Lorenzo de Floraison qui fait beaucoup de choses. Et donc il y a vraiment de quoi. Enfin, si vous êtes En plus, oui, c'est ça, c'est côté écologie politique qu'on a parlé à travers le FRAP, le Festival des Résistances Alternatives de Paris, qui est un peu cette tendance-là, c'est-à-dire de remettre au goût du jour les thématiques libertaires, mais aussi d'amener l'écologie. Et donc, Floraison, ça fait un peu ça, parce que ça reprend des vieilles traditions comme les naturistes, etc. Et donc je parle des mouvements libertaires écolos du début du siècle, et qui essayent de réfléchir sur des thématiques aussi comme le féminisme. Donc voilà, très bonne découverte récente.
Et je voulais juste dire aussi que là il y a une nouvelle politique sur la FM où ils vont réouvrir toutes les fréquences, en fait, c'est-à-dire que chaque radio qui n'est pas commerciale va devoir refaire tout un énorme dossier pour pouvoir garder sa fréquence, et du coup ils vont l'ouvrir quelque part à la concurrence, enfin, et du coup on espère que Radio Libertaire va tenir, va pouvoir continuer sur la bande FM, en tout cas elle continuera sur le web.
Ok, ben, merci à tous, hein. Merci à vous.
Au revoir et bonne continuation à tous.
À toutes.
Au revoir. Et puis,
bientôt.
La lutte continue. Au revoir.
À bientôt. Dans la rue, dans les grèves ou sur la radio.
J'ai jamais pu supporter les ordres, et je fus en marge des écoles, pas su accepter les codes, j'enrage d'emporter les bords, j'en claque mes portes et désole, les profs voulant mater me faire mordre la poussière, et je crache dans la soupière, j'aime pas ces méthodes, j'ai jamais baissé les yeux, ni regardé vers le sol, on me fera pas faire ce que j'ai pas envie de faire, ni Dieu, ni l'État, ni personne, je suivrai pas, je viens casser le négoce, et je lasse les boss, vous m'épargnerez les strophes, moraliste à me rempart, j'ai féroce, t'es scotch, certes pas tout clean, mais pas insensible à tout crime, l'état de temps, j'en aboumine, qui s'insurge quand on l'aboubrime, comme Emma, Coleman, Emma, la Tesla, Bookchin. J'suis insoumis, pas comme Mélenchon, mais comme Bakounine. Allergique à tout style de chef de Macron à Poutine. J'attends le jour où le prolétariat leur part à la routine. J'ai pas pour guide les leaders déchus de Cuba ou de Chine. Pas de bullshit, fils d'anarchie pour ma classe qui part tout rime.
Ni Dieu, 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 ni maître, maître.
Tous leurs petits chefs ainsi Dieu peuvent aller se faire mettre.
Ni Dieu, 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 ni maître, maître.
Jamais pu me soumettre au pouvoir, au dieu des contre maîtres.
Ni Dieu, 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 ni maître, maître.
Comme s'il peut compromettre, aurait pu me compromettre.
Ni Dieu, 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 ni maître.
Au taf, faut pas, j'suis pas assez studieux pour m'y mettre.
Du mal avec l'arbitraire de ces capitaines qui me filent la migraine, et y'aura pas de happy end. Par dizaines de milliers.
oublier l'école, créer des clones, des cons et des connes, qu'absorber des psaumes, stone. Écouter et ne jamais crier, apprendre à faire des billets, à les trier, à les plier. Moi je priais de mes défauts, fier de mes zéros. Puis je me suis mis à Pera, je suis mon propre héros. Néo dans la matrice, mes frérots et mes gars kiffent. Mais y'a des mots dans le carnet, c'est un fléau. Très négatif, le petit Léo est anarchiste, sans même le savoir. Sous le préau, c'est la manif, enfin c'est ce qu'il aimerait voir. Pire est-elle des pour rien, rien, c'est ce qu'on était à leurs yeux des grands tards. Et moi j'allais me cacher dans mes remparts, mais j'ai retourné le stigmate, argument péremptoire. Nada, c'est mon blague. Mon étendard,
ni Dieu, 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 ni maître, maître. Tous leurs fichettes ainsi que peuvent aller se permettre. Ni Dieu, 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 ni maître, maître. Jamais pu me soumettre au pouvoir, au Dieu des contre-maîtres. Ni Dieu, 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 ni maître, maître. Comme s'il peut compromettre, aurait pu me compromettre. Ni Dieu, 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 ni maître. Au taf, faut pas, j'suis pas assez studieux pour m'y mettre. Puis j'ai pris de l'âge, j'ai pris de large, des petites salles de place. Et j'ai pris le virage, des petits tafs, des brimades, des flicages. C'est le visage, l'autorité qu'adulte a en héritage. C'est vite barge, régie par des mirages. J'ai mille cages, c'est vite marche, ou crève, j'pars, j'fais grève et j'les dicache. Réticent à emprisonner mes rêves derrière des grillages. Qui drousse pète, j'suis tout prêt à faire moule, courbette. Au soumettre ou grand patron, j'pourrais jamais me soumettre à mes ennemis de classe.
Allergie. Au petit chef trop zélé, heureusement que je suis passé par le lycée autogéré. Poteau, je l'ai fait en âge, j'ai géré, appris à parler. Les efforts et le réconfort, ici tout est partagé. Pas de notes sur les cahiers, mais sur les murs pleins de taf. Après ça, comment mettre une cravate, comment m'aliéner au taf. Préparé au nouveau monde, à nous de le faire émerger. Ça demande du courage et de l'énergie.
De l'énergie. Ni Dieu, 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 ni maître, maître. Tous leurs fichettes ainsi que peuvent aller se permettre. Ni Dieu, 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 ni maître, maître. Jamais pu me soumettre au pouvoir, au Dieu des contre-maîtres. Ni Dieu, 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 ni maître, maître. Comme s'il peut compromettre, aurait pu me compromettre. Ni Dieu, 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 ni maître. Au taf, faut pas, j'suis pas assez studieux pour m'y mettre. Pour m'y mettre.